Lucas, do IPV, bem-vindo, Lucas.
Bem-vindo, pessoal.
Est-ce que vous avez eu la réponse dans votre tour?
On va être à la recherche d'un témoin. Donc, on peut commencer, on a mis ça ensemble, on a notre témoin, puis on va mettre la personne pour trouver quelqu'un.
OK, mais on va commencer par votre témoin.
Parfait, ça peut être ça.
Parce que, monsieur, on va poser des questions au témoin, je pense que ça va être plus efficace.
Oui, parfait.
Je vous le suggère.
Non, ça va, j'ai souvent procédé de cette façon-là, puis j'allais même pas poser, mais j'étais la dernière fois, je pense que monsieur avait commencé.
Oui, bien, monsieur avait beaucoup de documents à l'époque, parce qu'on était moins au courant de toute la dynamique, mais là, je suis rendue une experte, monsieur Ferrez, grâce à vous, hein?
Parfait.
Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? On va faire entendre le témoin du PGQ, puis vous laissez aller poser des questions à cette personne-là pour faire préciser.
OK, il me restait juste comme trois pièces à déposer en
fin de compte.
C'était juste deux mémos.
Sur quoi?
Une réponse. C'était à Sergent Jean-François à propos de... Je lui ai demandé pour les cours officiels de mes dates, depuis telle et telle date, les cours, un document officiel. Alors, il ne me les a pas remis. En plus, j'ai un autre document.
Mais ça, c'est par rapport à des documents?
Je demande, j'ai besoin des dates officielles de mes cours extérieurs et intérieurs du mars.
Ah, OK.
Lui, je lui demande. Enfin, quand après longtemps, il me réfère à le chef d'unité. Alors.
Mais ça, c'est à quelle date?
Ça, c'est au 30 août.
OK, mais ça, avant mon jugement, on a...
Je pense que oui, c'est vrai que j'ai déposé cette pièce.
Mais oui, parce que nous, on c'est le 14 septembre.
Oui. Alors, il y a juste une pièce, le 21 septembre, à Jean-François Gagnon.
C'est sur quoi?
Je lui explique le 14 septembre par le coaxeur, et 7 heures d'heure commune, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21. Brief sommaire de tout ça.
Là, c'est quoi exactement? C'est une plainte, ça, c'est quoi?
C'est une... c'est un mémo urgent. Et je demande une réponse requise de 4-5 jours après.
OK, mais ça, c'est par rapport à quoi? Vous dites quoi, là?
Les cours intérieurs et extérieurs.
Vous demandez les horaires?
Je lui ai dit que, depuis le jugement, c'est pas respecté.
OK.
Fin de compte.
OK, mais ça, on va attendre de voir qu'est-ce qu'ils vont me dire, parce que là, vu qu'on doit gérer ce qui se passe actuellement,
okay,
et que j'ai déjà votre liste de journées à D1 qu'on a déposée, est-ce qu'il y avait autre chose?
C'est juste sa réponse. Il me réfère à... Le 2 octobre, il me réfère à le chef d'unité à propos de ça, comme il... Okay. Il se débarrasse. Je ne sais pas si c'est pertinent.
Bien, on verra après le témoin. Si vous pensez que ça peut l'être, on regardera ça.
OK, dernière affaire. Ça, c'est une liste officielle de la liste individuelle des demandes de comparution qui montre les dates et heures, comment bien ils le font à Bordeaux pour les comparutions. As opposed to the way they make it personally, the chronological to me. They're personalizing the cours extérieur, intérieur to me. When they do have a mechanism by which they could very neatly, you will see if you want to give it to us, how they neatly, it's just not being, it's they haven't implicated a method by which.
Yeah, but you understand, sir, that that's what I asked the last time, that I wanted to have the information for you, not for everybody. Okay,
okay.
That's for you.
It's because I couldn't obtain them, but. Okay, for me, I guess. It's signed by the chef d'unité La Fontaine.
That's for court?
Yeah, that's just the comparison. So they do have a mechanism by which they do take notes about when they offer it and when they don't, but it's not present today in regards to my case. I thought maybe it would be interesting to take a look at it, because it's nice the way they do it. If only we had that for the interior-exterior course.
Okay, but
as you wish.
Because I see things here, 2017.
Yes, it was my list. Personnaliser les dates de comparution qui était plus comme officiel, take as opposed to an email.
Okay, that's one document.
This is one document.
Okay, so it goes all together.
Yes.
Okay, I thought it was
different. Just a liste de comparution. Okay. To show that that is one aspect of how they chronologically
Okay, the last date is September 20th.
September 20th. Yeah, that's when I came to your judgment, September. No, that was my court date devant Monsieur le Juge Saint-Arnaud. It doesn't include exterior and exterior courts.
Okay, because it says that prévu.
Yes, yeah, so they.
Okay, so they plan it and then they indicate what hour exactly.
It's well detailed. It's okay. Well. It's interesting how well they do it in this sense. Okay. A little less in the exterior interior courts.
Je vais montrer la procureure. So I see it's a printout that indicates the date. What is the time plan for you to go and to return? And then at the end of the column, the two last one, is the real
time
hour.
I do it.
Okay, and it's a computer form. So if there is an admission from the procureur général that there is a standardized procedure to take the exact hours and date for court appearance,
that would be it, and that's it.
That would make your point?
Yeah. Je comprends, mais je ne vois absolument pas la pertinence aujourd'hui d'avoir le système pour la comparaison versus le système.
Ce qu'il veut montrer, c'est que ça existe. Ce qu'il veut dire, c'est qu'au lieu d'avoir des petites notes comme ça, ça existe une procédure standardisée. C'est un argument qu'il veut faire valoir. C'est, ça existe.
Je ne vois pas la pertinence pour la comparaison. C'est un autre système. Je comprendrais que les notes, elles ne sont pas faites pour l'ensemble des détenus et prévenus. Vous avez demandé la dernière fois que ce soit recensé. Là. Donc, c'est pour ça qu'on le fait spécifiquement à M. Perez. Mais il y a pas, à ma connaissance, on ne fait pas ça pour tous les détenus, là, faire le registre des heures de sortie, tout ça.
Mais vous comprenez que si M. Perez veut faire un point pour dire, vu que c'est un droit qu'il a d'être une heure sorti, comme c'est un droit d'aller à la cour pour sa comparution, je dis ça là. C'est que lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un moyen de l'informatiser pour que ça soit clairement établi. Comme ça, il n'y a pas de peut-être oui, peut-être non. C'est très, très clair parce que c'est inscrit. Ça existe déjà au sein de l'établissement.
Je comprends que ça
existe.
C'est
son seul point qu'il veut faire.
Je comprends que ça existe, ouais. Mais je ne vois pas la pertinence de ce document-là.
Non, mais c'est pour ça que je ne veux pas le produire. Je veux juste que vous fassiez l'admission que ce système-là existe.
Ben, je peux pas me prononcer sur un. Donnez-moi là, je vais le montrer. Va falloir que je l'envoie à la prison, voir c'est quoi, c'est.
Non, mais
pourquoi? Je peux pas me prononcer sur un document d'état.
Non, parce que ce qu'on voit ici,
que c'est vraiment pour ça, puis c'est ça, je peux pas vous le dire.
Parce que si vous regardez, c'est marqué temps prévu en haut. J'aurai une minute, je vous reviens. Date prévue de sortie, date prévue de retour. Alors, on voit que quand ils vont à la cour, c'est souvent 6h10 le matin, retour 18h, ça dépend des autobus. Après ça, on a date effectivement de sortie. Alors, c'est marqué 9h25, donc ça n'a pas marché à 6h10. Et date effectivement de retour, 18h40. Il y a dû avoir du trafic.
Je comprends que ça a été... Mais est-ce que c'est un système qui font pour tous les... Ça, je ne peux pas me prononcer. Est-ce que ça a été fait particulièrement dans un cadre précis? Moi, je ne peux pas me prononcer sur...
Non.
Si ça existe, c'est pourquoi, c'est qui, c'est quoi. Ça, si vous me donnez, je vais le transmettre. Je vais avoir la réponse.
So, sir, I asked the Crown if they were ready to admit that this time schedule existed at Bordeaux, but for court appearance.
That was given to me by the chief there in their own system.
Because that's the only use that we can make of that, not the content in itself, but the fact that it exists.
The standardization of it, like it exists as a standard.
C'est la mission, moi je vous demandais pour pas qu'on ait à produire ça, là, parce que je pense pas que c'est...
Mais avant d'admettre quelque chose que je connais pas, j'avais pas la piste avant, on va vérifier. Ouais.
Parce que si je le regarde, moi, ça a l'air de venir, à moins que vous me disiez que ça ne vient pas de Bordeaux, là, mais ça a l'air de venir de Bordeaux. Puis ça semble indiquer les dates de comparution.
Est-ce qu'on l'a fait pas seulement pour un événement, pour tout le monde? Est-ce que c'est un système qui est en partie? Je ne sais pas.
S'ils font ça juste pour quelqu'un, je suis impressionnée. On a dit oui.
Mais on a fait exactement ça pour quelqu'un, pour les heures de sortie.
Oui, mais regardez ce que ça demande. Donc, c'est beaucoup de mérite, beaucoup de travail, mais c'est pas structuré, disons, comme ce que je vois.
En tout cas, je vais maintenir le commentaire.
to add just a little something to that little thing, every time we do go outside, the rare times we do go outside, there's a man, he says name and cell number, and he goes on the list and he ticks it off like this, he highlights it. So they have their date, and if we're highlighted, like the times that I didn't go out, I didn't hear because they open the doors at 8:30, they call it right away, nobody hears it, there's just a few times I did go early in the morning, there was only about 5 of us who went, because we don't hear, they don't actually come, you know? So he does note them, and so when they give back the schedule, it works. The way they're doing it at the beginning would work with the standard guide system as to not have ambiguousness.
So, Mr. Perez, that would be an argument for you to present to the court, saying that when there is
when there's la volonté, I understand, like when there's the will to do it, like
yeah, when you want to do something, it's possible to do it because
right.
We see it for the appearance in court, it exists.
Yeah,
they will check if it comes from Bordeaux and what is it exactly. But at first sight, it seems that it's a structure procedure to know when a detainee is going out of Bordeaux and coming back to Bordeaux. So, because the fact that the hour is something that they should do, they must do, that's something you can maybe say, why not put a procedure like that so you would exactly know what's happening with the exterior port.
Exactly, you would have per the second.
But that's for you to make the argument and for me to listen to you. So for now, we will listen. Est-ce que vous pouvez attendre après votre...
Non, ça va commencer. Est-ce que Monsieur Joubert est en...
So, Mr. Perez, you can take the PGQ3.
There was just the response of that memo for the exterior courts from Jean-François for September 21st. Do you want his response? Or?
No, that's the document that you will see. We will see after this one. So, PGQ3 is the document that the witness made, Mr. Joubert. Vous êtes Monsieur Joubert?
Oui, Madame la juge.
Vous nous entendez bien?
Oui, je vous entends bien. Et vous?
Très bien. Si jamais il y a un problème, levez la main pour qu'on sache qu'il y a un problème avec le son ou l'image.
Merci.
Et je vous demanderai de parler pas trop vite parce que M. Perez est anglophone. Il parle très beau français, mais sa langue maternelle est l'anglais. Alors, juste...
Pas trop.
Merci. It's a two-page document, Mr. Perez.
Permettez-je à son de témoin attendant,
oui.
Juge? Veuillez lever la main droite. Affirmez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, dites je l'affirme?
Je l'affirme.
Prénom de famille?
Patrick Joubert.
Et votre occupation?
Directeur de service à l'établissement de détention de Montréal.
Merci.
Alors, même avant de commencer, est-ce que par rapport aux témoins qui étaient venus la dernière fois, ils ont le même poste ou c'est différent?
Peut-être que M. Joubert peut répondre. M. Joubert, par rapport à M. Gagnon, est-ce qu'il y a une différence dans les postes que vous occupez ou versus les secteurs?
Pour les postes occupés, non. C'est un directeur des services comme moi, lui intérimaire, moi nommé. Mais c'est la même tâche de travail. C'est simplement moi que je suis le responsable. Directement du secteur Bravo, ce que M. Perez réside.
Merveilleux. Alors, je suis très contente d'apprendre ça, M. Joubert, parce que M. Gagnon, je pense, commençait ses fonctions et avait l'information théorique, mais je pense qu'il n'était pas tout à fait au courant de ce qui se passait quotidiennement. Alors, je suis très contente de savoir que c'est vous qui avez le poste permanent. Merci. Allez-y,
Oui.
M. Perez, tu peux vous asseoir.
Monsieur Joubert, pouvez-vous d'entrée de jeu nous parler un peu de votre travail, vos occupations, depuis quand vous les exercez à titre de directeur de service?
En gros, vite, je travaille à la détention depuis 24 ans. Je suis dans ma 24e année. J'ai été agent de service correctionnel pendant 10 ans. J'ai été sergent, chef d'unité pendant plusieurs années, puis directeur de service depuis 2016. Et je suis directeur de service au secteur Bravo depuis un petit peu plus de 2 ans.
Monsieur Perez est incarcéré depuis quand à l'établissement de détention de Montréal?
Je m'excuse, mais j'ai pas eu le détail là-dessus exactement depuis quand.
C'est dans votre déclaration sous serment au point 2.
Ah, excusez. OK, depuis le 31 mars 2023, de ce que je vois de la déclaration.
Monsieur Perez est dans quel secteur?
Et M. Perez réside dans le secteur B8, qui est un secteur de classement protection comportementale, protection à caractère sexuel.
Qu'est-ce que ça implique, cette caractéristique-là, au niveau du secteur?
C'est tout simplement un classement fait par le ministère de la Sécurité publique et le service correctionnel dans le but de vraiment mettre ensemble les personnes avec les mêmes charges ensemble, puis surtout cette caractéristique de personnes-là ensemble pour les protéger. L'objectif, c'est de les protéger, puis on veut bien s'en occuper.
Est-ce qu'il y a des mesures particulières qui sont mises en place?
Bien, dans ce secteur-là, présentement, il y a deux types de clientèle au niveau des statuts. Techniquement, c'est un secteur qui est réservé aux prévenus. Donc, on n'est pas supposé d'avoir de personnes en peine continue à l'intérieur. Mais malheureusement, depuis quelques mois, depuis la COVID, dans le fond, là, on est obligé de mettre les deux statuts ensemble.
Puis, dans le secteur B, il y a combien de secteurs de regroupement?
Dans le secteur B est composé de 7 sous-secteurs de différents classements, que ce soit des classements considéré comme minimum, moyen, élevé, protection comportementale et protection à classement sexuel.
Puis, on reviendra plus en détail pour les sorties à la cour extérieure, mais ou dans les sorties hors cellule. Mais est-ce que ces sous-secteurs-là peuvent être ensemble, tant en hors cellule ou dans la cour extérieure? Comment ça fonctionne à ce niveau-là?
Au niveau de jumelage des sous-secteurs, malheureusement, c'est impossible de mélanger même les mêmes classements. Fait que si j'avais deux classements pareils, peu importe le type de clientèle, on ne peut pas les mélanger dû aux problématiques à l'interne de eux. Certains ne sont pas capables de côtoyer d'autres personnes incarcérées. Donc, on est obligé de les diviser, de les séparer et on ne peut pas les mettre ensemble pour certaines activités, malheureusement. Que ce soit même juste aller au parloir, aller à la cour extérieure. Donc, ce qui nous force à faire plusieurs sorties ou plusieurs activités individuelles par sous-secteur. Donc, si j'ai 7 sous-secteurs, je suis pour une activité de parloir, ça me fait 7 blocs de temps juste pour aller à un parloir, je donne un exemple, et 7 plages aussi de temps pour une cour extérieure.
Donc on a 2 blocs. Donc pour le premier bloc, concernant le temps de sortie hors cellule, pouvez-vous m'expliquer dans le cas de M. Perez, dans la déclaration sous-serment, on a mis la période du 14 septembre au 24 octobre. Donc pouvez-vous nous parler un peu comment ça se passe pour le temps hors cellule?
Techniquement, les régimes de vie réguliers, je dis bien réguliers lorsque aucune situation d'urgence ou enjeu de sécurité n'est mis en arrive à l'improviste parce que c'est hors de notre contrôle. Techniquement, oui, c'est en moyenne proche d'une dizaine d'heures de sortie par jour qui est prévue et souhaitable de notre part. Il faut comprendre que nous, c'est tout ce qu'on veut, c'est qu'ils soient le plus longtemps possible à l'extérieur de leur cellule. C'est de un, c'est pas ce qu'on veut les garder en cellule, c'est bien leur donner le plus de temps. Sauf que malheureusement, il arrive des situations qui sont hors de notre contrôle, qui sont des enjeux de sécurité ou d'urgence qu'on est pris à côtoyer avec. Dans les dates que vous me parlez, j'ai vu que sur 8 dates que vous m'avez sorties à partir du 14 septembre, qu'il y a eu soit des sorties en alternance, mais il y en a plusieurs, c'est la fin de semaine, malheureusement. Et ça, c'est un enjeu pour nous de, que ce soit de drones, que ce soit de manque de personnel, malheureusement. On est pris à vivre avec ça, puis à essayer de trouver la meilleure solution possible pour permettre le plus de temps de sortie possible à toute notre clientèle. Pas juste celle du Bravo, mais bien à toutes.
Puis dans ces journées-là, on voit qu'il y a une ouverture en alternance à certaines heures. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça implique?
Exact. L'alternance, c'est vraiment la dernière alternative en fonction, c'est tout le temps causé en fonction du manque, malheureusement, de personnel. On est pris avec ce dossier-là comme un peu partout, je pense, depuis un petit peu la COVID, on va s'entendre, et la situation est difficile à rectifier. Pour ces dates-là, l'ouverture d'alternance ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'heure de sortie par jour. Comprenez que les temps de travail au travail, nous, sont comme divisés en de jour et tard de soir. On peut séparer, là, pour faire une image, là, que sur une moyenne de 10 heures par jour, c'est 5 heures le jour, 5 heures le soir pour la semaine. La fin de semaine, étant donné que les portes ouvrent à 11 heures, bien, ça donne plus un 4 heures le jour et un 6 heures le soir. Quand on parle en alternance, en fonction des dates et des heures de sortie, on voit que par exemple, le 22 septembre, il y a eu une ouverture en alternance à partir de 19h. Ce qui veut dire qu'il y a eu au moins la moitié, toute la période du quart de jour et une partie du quart de soir. Et malgré ça, ça ne veut même pas dire que le secteur comme tel, le sien a été fermé. Parce qu'on y voyait avec, comme je dis, on fonctionne par trois étages. J'ai trois étages sur mon secteur. Donc, je ferme un étage à la fois en bloc de 1 heure ou 1 heure et demie ou 2 heures. Mais ça, c'est pas. Malheureusement, ça, c'est le chef d'unité qui s'assure de bien répartir l'alternance dans le but d'être le moins longtemps possible en cellule.
Parfait, merci. Donc, au niveau du temps sorti à la cour extérieure, d'abord, comment ça fonctionne pour établir quel secteur tu vas sortir quand? C'est quoi le système mis en place?
Étant donné qu'on a malheureusement une grosse contrainte qui est vraiment frustrante pour le personnel opérationnel, là, incluant la direction, aux opérations comme moi et mes sergents. La situation, je pense que ça a été un peu dit tantôt en fonction de la fameuse cour qui est en réparation, la cour BC qui est en réparation depuis le début du printemps. Les débuts du travaux, je peux vous confirmer qu'ils ont été commencés au printemps, suite à la fonte de la neige. Et malheureusement, comme on sait, c'est des contrats externes qui sont en dehors de notre contrôle aux opérations. Et qu'il crée énormément de frustration à mon personnel, énormément de frustration à moi, énormément de frustration à tout ce qui est les opérations, la sécurité. Parce que, comme je vous disais, je dois séparer un bloc d'ouverture de cours. J'ai pas assez de plage horaire de sortie pour mon secteur à moi, en fonction du nombre de sous-secteurs que je dois administrer. Ça, la haute direction est au courant, ils le savent, ils connaissent tout ce que je dois essayer de faire en fonction du nombre de plages horaires que j'ai et le nombre de sous-secteurs que j'ai. Ils sont au courant et ils n'ont pas de réponse parce qu'ils souhaitent énormément comme nous que ce soit réparé au plus vite parce que c'était supposé finir en juin. Malheureusement, on vit la contrainte qui est là présentement. Fait que je dois rentrer dans le fond dans un nombre de blocs d'heures de jour et un petit peu de soir parce que malheureusement, oui, vous l'avez parlé, on a pris avec la contrainte de la clarté pour des raisons d'enjeux de sécurité, bien sûr. Et à cause de ça, on est pris en fonction de ça, je dois rentrer 7 plages horaires dans 6 blocs de sortie. On s'entend que 7 ne rentrent pas dans 6. Fait qu'on y va en alternance, fait que on donne l'heure au complet de sous-groupe 1 à 6 et le lendemain, on commence avec le 7e qui n'a pas pu l'avoir. On y va et on continue malheureusement comme ça. Si j'avais comme avant, moi ça fait plusieurs années que je suis directeur de service et j'ai tout le temps eu mes 2 cours ouvertes, je peux vous garantir que jamais à 2 cours ouvertes, que même s'il ferait noir à 4 heures l'après-midi ou à 3 heures l'après-midi, j'ai amplement de plage horaire pour sortir tout le monde, même avec des situations, des enjeux sécuritaires de drones. C'est vraiment la prémisse et la difficulté de la fameuse cour grillagée âgée qu'on attend et qui nous, il nous crée vraiment une frustration à nos niveaux, à nous aussi.
Vous parliez tout à l'heure des enjeux de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous indiquer là, qu'est-ce que ça représente, les enjeux de sécurité? De quoi qu'on parle?
Les enjeux de sécurité, on va y aller comme ça, assez clair. Il y a deux gros enjeux. Il y a le système de caméra. Ça, malheureusement, s'il y a un bris, c'est hors de nos contrôles aussi, hein, on s'entend. Et le plus gros enjeu de sécurité, c'est vraiment les drones. On va s'entendre, c'est la multitude de drones, de tentatives de livraison par drone à l'EDM. Ça a été dit des nouvelles cette semaine. Et on essaie d'avoir des équipements qui vont pouvoir nous aider à pouvoir justement pouvoir mettre un frein à ça pour justement permettre les ouvertures de cours puis permettre à notre clientèle de pouvoir aller dehors. Ils ont besoin de sortir, ces gens-là. Ils ont besoin, on le sait, ça fait tellement d'années que je suis directeur de service. Je peux vous dire que c'est un besoin et on le sait, mes agents le savent, mes sergents le savent. Quand tu travailles avec peu importe le type de clientèle, tu le sais que ces gens-là, ils ont besoin de prendre de l'air. Malheureusement, on est contraint de certaines règles de sécurité ou enjeux de sécurité ou urgences imprévues qui sont à un très très haut pourcentage, les livraisons de drones qui nous forcent à mettre des mesures en place et qui contraint malheureusement les heures de sortie qu'ils sont obligés des fois de les couper ou même tout simplement pas donner.
Quand il y a un drone, au niveau des drones, c'est quoi l'enjeu de sécurité? Qu'est-ce que ça fait que...
Ben, les drones. Ben, l'enjeu de sécurité quand il y a des drones, c'est tout simplement la livraison comme telle. Et c'est même le drone, parce que on a déjà vu des drones tout simplement s'écraser au sol. Et quand ça s'écrase avec les hélices et l'imprévisibilité de la direction où ce que ça peut aller au sol, avec les hélices à la vitesse que ça tourne, c'est excessivement dangereux, autant pour nos personnes incarcérées que pour nos agents. Fait qu'on a, un devoir de sécurité, puis on est là pour protéger et les personnes incarcérées et les agents. Et surtout maintenant, avec le type de livraison qui est faite, c'est plus des quantités extrêmement minimes comme à mes débuts, au début des années 2000, parce que ça pouvait être une petite substance à l'intérieur d'une balle de tennis qui était lancée par-dessus les murs. Maintenant, on parle, pouvait peser des grammes. Maintenant, on parle de livraison de 15, 20 livres de matériel. C'est livré à partir de 800 pieds dans les airs. On s'entend que quand ça tombe du ciel et si ça finirait par toucher quelqu'un, et il y a de la documentation chez nous qu'il y a eu des paquets qui ont tombé à quelques pieds, soit de personnes incarcérées ou de membres du personnel lors des inspections ou des fermetures des cours. Et c'est extrêmement dangereux à la vitesse que ça va tomber du ciel. C'est un gros enjeu de sécurité, ça, lorsqu'il y a un drone qui est appelé ou qu'il y a un drone qui est détecté.
Pourquoi il n'y a pas d'heure de sortie le soir?
C'est encore pour l'instant des enjeux de sécurité, malheureusement. On est encore malheureusement là-dessus. Au niveau des enjeux de sécurité, à cause que les drones de soir sont extrêmement difficiles visuellement parlant, c'est impossible de les voir comparativement au le jour. Donc, on met en danger et les personnes incarcérées et les membres du personnel. Un paquet qui tomberait le soir sur une personne incarcérée, je vous le dis, c'est des dommages majeurs, physiques, majeurs à une personne incarcérée. La même chose pour un membre du personnel. Et après ça, on pourrait pas dire, on l'a pas vu, on le voit pas le soir, on le voit pas. Il cache les petites lumières qui sont en dessous des drones. À la hauteur qu'ils sont maintenant, c'est pratiquement impossible de les entendre, mais tellement qu'ils sont perfectionnés, ils montent de plus en plus haut pour pouvoir le faire parce qu'ils savent que plus bas, on va les entendre. Au moins, on va dire, on entend, on pourrait faire quelque chose. Mais là, on les entend même plus parce qu'ils vont encore plus haut à cause de la technologie va plus haut. Donc, c'est vraiment un enjeu de sécurité au niveau de la protection de notre clientèle puis de notre personnel.
Dans les notes chronologiques PGQ1, bon, je ne ferai pas tout l'ensemble avec vous des dates. On voit à certains endroits que c'est écrit 10-31. Qu'est-ce que ça veut dire 10-31?
Ben, c'est tout simplement pour nous, c'est notre codification radio. C'est tout simplement une codification radio qui nous indique une intrusion par les voies des airs d'un drone.
Puis, qu'est-ce qui arrive une fois qu'il y a un code 1031, quand il y a un drone, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Ben, immédiatement, l'alerte est lancée et dans nos procédures de sécurité puis nos enjeux de sécurité, c'est de, dans un délai le plus rapidement possible, c'est fermeture, on ferme toutes les activités extérieures de la prison. Tous les cours, toutes les activités extérieures, peu importe. C'est fermé pour justement, puis ça l'informe en maintenant de dire au personnel, placez-vous en une position où vous pourrez être en sécurité pour être sûr qu'il n'y a pas un objet qui pourrait vous tomber dessus.
Pourquoi on ferme tout l'établissement de détention?
Parce que, comme je vous dis, lorsque il est détecté, ça ne veut pas dire qu'on sait exactement à la hauteur qu'ils sont, où ce qui est exactement, puis vers quel point exact il vise. Des fois, il est en déplacement, des fois, il est en stabilisation, des fois, il est juste en approche, des fois, il est au départ parce que la livraison avait déjà eu lieu, puis on ne le savait pas, mais peu importe, c'est tout simplement ça que nous... c'est exact, c'est ça.
À quelques journées, il y a eu aussi, la cour a été fermée en raison de tests de détection de drones. Est-ce que vous savez c'est quoi ces tests-là? Sans rentrer dans les détails techniques, mais pourquoi on prend la journée? Qui vient faire ces tests-là? Si vous pouvez nous détailler.
Tout ce qu'on sait, nous, à notre niveau, parce que ça, c'est des projets majeurs, gouvernementaux, en lien avec des partenaires externes. Dans le fond, c'est notre direction des services administratifs avec la Société immobilière du Québec, qu'eux sont les propriétaires. Si on peut utiliser le terme, c'est facile, là, dans le fond, nous, on est des locataires, puis ça, c'est nos propriétaires. Puis tout nous, on dépend de eux au niveau des installations, puis au niveau des réparations, puis au niveau de ci. Pour, s'il arrive au point de vue ils sont en train de vouloir essayer de trouver des solutions justement pour remédier aux drones. Et ça, c'est des contrats externes gouvernementaux de plus d'un montant X qui doivent être en appel d'offres. Et après ça, avec des termes et des contrats légaux, là, c'est des contrats légaux que si c'est pas respecté avec des contrats avec des règlements qui se sont entendus eux à leur niveau et dedans. Je peux pas présumer de ce qui est inclus dans le contrat, je n'ai jamais vu le contrat, mais je sais que c'est des firmes extérieures qui viennent même pas tout à fait du Canada, donc c'est peut-être, comme je dis, j'ai pas l'information au niveau de détails là-dessus.
Puis, je sais pas, à votre connaissance, pourquoi on fait des journées de test de détection des drones, ça sert à quoi?
J'imagine que c'est dans leur procédure, pour des enjeux de sécurité, pour voir l'efficacité de l'appareil qui essaie de nous donner comme outil de travail qu'on pourrait sécuriser les cours dans le but de permettre à nos agents de faire leur travail et surtout donner les périodes de cours extérieures entières à notre clientèle qui, pour nous, ils en ont vraiment besoin.
Dans les notes chronologiques, on voit qu'il n'y a pas eu de cours en raison d'un conflit sur l'horaire. Est-ce que c'est au niveau que vous avez seulement 6 périodes versus 7 heures? Est-ce que c'est par référence à cette problématique-là en raison de la cour qui est fermée?
Comme je vous dis, si je me réfère aux documents puis je me fie à mon expérience et à ma collaboration avec mes sergents lorsqu'il arrive des situations comme ça et que j'en suis informé, c'est une grande possibilité que c'est la manière qu'ils décrivent eux autres, les sergents ou les agents, dans leurs notes chronologiques ou les notes de livre de bord. C'est comme ça que moi, on en déduit lorsqu'on fait après ça, je fais mes comptes rendus à mes supérieurs de dire, vous voyez, il y a un groupe, un sous-groupe que j'ai été incapable de pouvoir sortir, donc malheureusement. Sauf que en y allant avec 7 sous-groupes comme ça, ben les impacts pour nous sont considérés comme amoindris.
Par rapport au document des topos des chefs d'unité, donc je fais référence à PGQ2, donc pour moi c'est des captures d'écran.
Exact.
Si, pouvez-vous nous en parler, c'est quoi ces documents-là, ces topos-là?
Ben, c'est des topos généraux des chefs d'unité lorsqu'ils font leur journée de travail, tout simplement. Ils écrivent tout simplement, c'est pas en détail, c'est vraiment pas en détail aux minutes et aux minutes près, parce qu'ils ne sont pas sur tous les étages en même temps, puis ils ne travaillent pas. Eux, dans le fond, ils supervisent le personnel, les 3 étages, les 15 agents, les 240 pays qu'on a, ils supervisent, dans le fond, ils se promènent, puis donc c'est les informations générales de la journée, lorsque ou des spécifiques s'il se passe une intervention ou s'il se passe un cas particulier d'urgence, peu importe, ils vont l'écrire, c'est possiblement ça qui est clavardé. Mais ça concerne vraiment seulement le secteur Bravo, oui. Fait que nous, on prend pour acquis que quand moi je lis le lendemain matin les topos de la veille, puis que je vois que les heures de marche ont été données selon les heures prévues, pour moi, comme directeur de service, ça me donne l'information que toutes les activités normales et quotidiennes qui devaient être données ont été données.
Puis s'il y avait une problématique comme un drone, si ça n'avait pas été donné, est-ce que normalement ça aurait été inscrit dans les topos?
C'est certain que ça aurait été inscrit dans les topos, en tout cas ça l'aurait dû l'être. Si ça n'avait pas été inscrit, il y aurait eu une lacune, et là, mais techniquement oui, ça devrait l'être. Ça, ça fait partie des notes qu'on doit en être informé, puis que moi je dois en être informé.
Maître, 2 secondes, je vais juste vérifier une date midi. Parce que voyez-vous, le 14 septembre, dans le document PGQ2, c'est marqué « Cour extérieure offerte » dans le document de M. Perez, qui est D1. Le 14 septembre, il n'y a pas de cour extérieure.
Et ici, ça va être la force probante du document. Je ne sais pas qui a colligé cette information-là. C'est un détenu, de quelle façon, ou un prévenu. Comment ça a été fait? Alors que moi, j'ai une note d'un agent. En fait, j'ai le topo ici, 14 septembre, heure de marche selon leur heure de vie, activité ponctuelle faite, bon déroulement des activités pour le secteur, bravo.
Mais ça, je comprends, mais ça veut pas dire dehors. Moi, je vois cours extérieur offert dans le deuxième carré, oui. Là, noirci, juste la ligne au-dessus du carré, noirci du bas. Oui. Puis j'ai l'information de M. Perez qui, comme je vous ai dit la dernière fois, était, pour ainsi dire, très exact, puis allez avec vos informations. C'est marqué non. C'est pas une question d'heure, là, parce que d'autres dates, on voit que c'est pas 60 minutes. Là. Mais là, c'est court, je sais pas, c'est marqué non. Là. Alors, c'est soit qu'ils l'ont offert, personne n'a entendu, personne n'est sorti, ou ils l'ont pas offert cette journée-là, un des deux. Mais c'est étrange que ce soit aussi contradictoire. Je regarde le 8 octobre.
Oui, il y a quelques dates contradictoires, effectivement.
Attendez, le 8 octobre.
14 septembre, le
20 septembre, c'est marqué cours extérieur offerte. Si je regarde ici 8 octobre sur le document de M. Perez, pas de cours extérieur.
Oui, je comprends. Il y a également le 20 septembre qui s'écrit qu'il n'y en a pas. Pourtant, le 20 septembre, M. Perez est parti à la cour. Donc, comment il peut colliger cette information-là si M. Perez était parti à la cour? Donc, il y a quand même des informations ici qu'on ne sait pas comment ça a été recensé. Mais oui, effectivement, il y a des discordances. Il y a des dates que M. Perez n'est pas sorti puis qui indique qu'il n'y a pas de cours, alors que c'était son choix de ne pas y aller. Donc, il y a quand même, c'est la force probante d'un document rempli par un je ne sais même pas qui l'a rempli, ce document-là, mais...
Là, je regarde ici le 9 octobre, je vais regarder cette journée-là en particulier. 9 octobre.
Ça a été donné, sur les 2 documents, ça a été donné.
Oui, lui dit oui, mais ça a l'air d'être en soirée, de 15h10 à 15h40. Ici, c'est marqué « Ouverture des cours extérieurs, 11h30 ». Mais des cours extérieurs, ça veut dire quoi, ça?
Peut-être demander à M. Joubert.
Non, ça, ça veut simplement dire que c'est le début des plages horaires qui ont commencé à 11h30.
OK, parce que c'est, vous venez de dire qu'il n'y en a pas des cours, c'est une seule qui est disponible pour le B, c'est pas ça que vous avez dit tout à l'heure?
Oui, mais quand je dis des cours, c'est que je parle de mes 7 sous-secteurs. Okay. Les 7 cours que je dois donner. Okay. J'ai une cours, j'ai 7 sous-secteurs.
Voilà. Alors là, on vient de comprendre que quand on parle du B, c'est les 7 secteurs. Là. On ne parle pas du secteur de
B. Exact. Voilà. Non.
C'est ça a tout à fait du sens. Donc, un va avec l'autre, c'est que M. Pérez parle de son secteur B8, si j'ai bien compris.
En fait, la contradiction du 14 septembre, on peut peut-être...
C'est parce que ça, c'est par rapport aux 7 secteurs. Donc, oui, il y a peut-être des fois, c'est offert dans une des 7 autres ou 6 autres...
Par exemple, M. Joubert, là, au 14 septembre, donc, où est-ce que le secteur B, le deuxième écran, là, justement le terme en anglais, correcteur offert. Donc, est-ce que ça a été offert à les 6 secteurs, 7 secteurs? Je comprends qu'on ne peut pas donner à 7 secteurs.
Ça, dans le fond, ça veut dire que je n'ai pas l'horaire. Okay? Ça, c'est pour moi, ça me dit qu'il y a au moins 6 sous-secteurs sur 7 qui ont eu leur cours, sinon les 7. Parce que lorsqu'il y a une cour extérieure, qu'il y a un sous-secteur qui refuse au complet leur cour extérieure, je passe immédiatement à l'autre sous-secteur pour justement entrer les 7 sous-secteurs dans la même plage horaire de la journée.
Ici, au 14 septembre, ça avait, un secteur avait refusé, il y avait eu un secteur qui n'aurait pas pu sortir, est-ce que ça serait apparu?
Pas nécessairement dans celui du sergent, de celui qui est clavardé. Ça aurait été possiblement dans les livres de bord des étages, parce qu'on fonctionne par trois étages, donc il y a 3 livres de bord par étage. Il y a 3 livres de bord pour les agents.
J'avais pas d'autres questions, madame.
Alors, moi, j'en ai une. Je vois ici que pour le 9 octobre, le 9 octobre, c'est marqué, là, je suis toujours dans PGQ2, là, le caviardé, l'avant-dernière page. Le 9 octobre, c'est marqué que les cours extérieurs sont ouvertes à 11h30.
Oui, je peux vous l'expliquer, madame la juge.
Oui, mais sauf que le 9 octobre, on s'entend qu'il fait noir à 6h30 à peu près.
Et la question du 9 octobre, c'est spécial, je vais vous l'expliquer immédiatement parce que c'est le 9 octobre, c'est une action de grâce, c'est un lundi et c'est une journée fériée. Et toutes les journées fériées, nous, on travaille comme la fin de semaine. Donc, c'est les horaires de samedi et de dimanche, donc les portes de cellules ouvrent à 11h.
Donc, on s'entend.
Donc, j'ai ça.
À 11h30, par contre, à moins que moi, je ne peux pas vous dire que les mathématiques, c'est ma force, là. Mais je suis capable de savoir qu'entre 11h30 et 6h, il y a à peine 6h30 de disponible pour 7 secteurs.
C'est exactement le calcul à quoi j'arrive. C'est pour ça que je vous dis que j'ai 7 sous-secteurs et c'est impossible d'y rentrer en une journée si toute ma clientèle désire sortir.
Alors, puis ça, on parle des jours de semaine qui ouvrent, je comprends, à ce moment-là, à 8h30.
Exact.
Vous avez de la misère à satisfaire vos 7 secteurs quand c'est ouvert de 8h30 à, disons, 6h ou 5h30.
Exact.
Non, encore moins quand ça ouvre seulement.
Et ça, mon ami.
Ouais. Et la dernière fois, M. Gagnon me disait que les fins de semaine, ça causait problème parce que au niveau du personnel, c'était pas facile de faire rentrer le personnel. Et je relis les notes de M. Gagnon qui disait que c'est pas un problème de budget. Qui pourrait appeler des agents à la maison, mais pour le personnel, ils ne rentreraient pas pour uniquement 4 heures. Est-ce que c'est ce que vous avez comme information, vous?
Oui, bien honnête avec vous, madame la juge, là, je n'ai pas cette information-là au niveau du nombre de personnel disponible la fin de semaine. Je n'ai pas cette information-là, moi, là, du tout.
Okay, désolé, on voit dans les horaires que quand il y a des problèmes, c'est souvent des fins de semaine.
C'est majoritairement, oui, les fins de semaine. Et même, ça l'inclut presque les lundis et les vendredis rendus maintenant, parce que c'est là qu'on dirait que les gens prennent plus de congés, le personnel prend plus de congés pour se faire peut-être des longues fins de semaine. Mais oui, on a une grosse difficulté au niveau du nombre de personnel la fin de semaine, ça, c'est pas un... c'est clair.
Bon. Parce que là, ce qu'on me disait, c'est qu'il n'y a pas de personnel, mais vous pouvez, comme on appelle, je pense, geler, là, je cherchais le mot au début de la journée, là, il y a un terme que vous utilisez pour dire quand vous leur dites... il faut que tu rentres, on te demande de rentrer malgré que tu es chez toi. On... Mais ça, c'est là que je me suis fait expliquer que pour 4 heures, c'est pas très intéressant pour le personnel.
Vous êtes gelé là.
Vous êtes gelé là, c'est ça. On...
Oui, mais nous, le terme, c'est peut-être le jargon là, que vous avez entendu, mais nous, on appelle ça la réquisition obligatoire.
Réquisition, mais je pense que parmi le personnel, ils ont trouvé un petit raccourci. Là. Alors, vous appelez ça comment? Obligatoire?
On appelle ça la réquisition obligatoire.
Réquisition obligatoire. Et je comprends que la réquisition obligatoire, c'est pas quelque chose qui est utilisé fréquemment.
Bien, ça l'est, oui, pour ceux qui sont en poste, pour ceux qui travaillent. Pour l'extérieur vers l'intérieur, la réponse est non. Et de dire à quelqu'un à l'intérieur, on va utiliser le terme TSO là, qu'on entend dans les nouvelles au niveau des infirmières, tout ça, du temps supplémentaire obligatoire ou de la réquisition obligatoire, ça arrive quelquefois, oui, c'est arrivé.
Mais d'aller chercher des employés à l'extérieur qui sont en vacances, de dire tu rentres, vous ne le faites pas.
Non.
Pourquoi?
Simplement parce que ce n'est pas dans les procédures de nos supérieurs.
Okay.
Ça fait pas partie des ententes, possiblement des ententes collectives. Là. Ça, je peux pas me diriger vers là.
OK. Parce que moi, on m'avait dit que c'était possible, mais que c'était pas très intéressant, ce qui faisait que les gens n'étaient pas très intéressés de dire OK, je vais rentrer pour 4 heures. Ce que j'avais dit à M. Gagnon, mais pourquoi vous ne les faites pas rentrer pour une journée, puisque c'est pas une question de budget. Ça, c'était une des choses qui avait été envisagée. Et je comprends que ça, de façon. C'est ça. C'est gelé. T'es gelé sur ton poste, c'est ce que vous nous dites, là, c'est quand tu gardes quelqu'un à l'interne. Tu lui dis tu pars pas, t'es gelé.
C'est la réquisition obligatoire, okay. Oui.
Alors, c'est parce que là, on comprend aussi qu'on parlait de cours en travaux, mais moi, on parlait que dans le secteur A, il y avait une cour grillagée qui existe déjà.
Oui, une petite cour grillagée à peu près 10 pieds par 10 pieds, oui.
Et cette cour-là, vous pouvez l'utiliser quand il y a des problèmes ailleurs. Parce qu'elle est grillagée, les drones, elle ne l'affecte pas.
Seulement quand on peut l'utiliser, oui, en surplus de nos cours, pas pendant une opération d'urgence, une situation d'urgence ou un enjeu d'urgence. Mais je peux l'utiliser en plus, je pourrais l'utiliser, mais elle appartient au secteur alpha. Il faut comprendre que le secteur alpha, lui aussi, 7 sous-secteurs avec seulement une seule cour. Fait qu'on vit tous les secteurs, on vit tous le même problème avec nos nombres de cours. Moi, je suis chanceux, j'avais 2 cours avant. Mais le secteur A, oui, lui, il a sa cour plus sa petite cage grillagée de 10 par 10. On s'entend qu'il y a des normes d'incendie. On s'entend qu'il ne pourrait pas avoir d'incendie, mais on s'entend qu'il y a un nombre de pieds carrés disponibles. On ne peut pas mettre 44 personnes dans un 10 par 10. Fait qu'il y a des normes de maximum de personnes incarcérées que lui, dans le secteur alpha, il peut mettre là. Ça, c'est, il peut en mettre. Mais il faut comprendre que dans le secteur alpha, là, la caractéristique, Mme la juge, si vous me permettez, c'est qu'il y a une réclusion, il y a une ségrégation. Ça, c'est des sous-secteurs individuels. On utilisait les termes le trou puis les secteurs de haute sécurité. Et c'est pour ces gens-là, puis lui, il y a un nombre de personnes incarcérées dans ces secteurs-là. Il doit donner aussi, c'est obligatoire de donner au moins 2 heures de sortie à ces gens-là par jour, en fond, et leur offrir la cour extérieure. En fait, pour ce secteur-là, le secteur alpha, que ce type de clientèle-là, c'est pour sa clientèle spécifique, individuellement, qu'on sort ces gens-là dans cette cage-là, dans cette grille-là. C'est pas une cage, là, c'est une cour grillagée, mais d'une dimension très restreinte.
Et là, les travaux dans la cour en question que vous avez pour le B, est-ce que c'est une cour grillagée qu'on est en train de faire?
Oui, mais c'est une immense cour grillagée que selon les normes, on va pouvoir mettre 40 personnes, 50 personnes, 60 personnes.
Oui, elle va être même. Qui va venir parler de ces travaux-là spécifiquement, on va l'avoir cet après-midi.
Bon. Okay. Et vous, M. Joubert, est-ce que vous êtes au courant, je comprends que ce n'est pas votre responsabilité, mais est-ce que vous êtes au courant quand ces travaux seront terminés?
J'ai tellement hâte. Vous saviez comment est-ce que ça va m'enlever de la pression à tout mon personnel, puis ça va aider tout le monde, les personnes incarcérées incluses. Non, malheureusement, j'ai pas de date. J'aimerais tellement le savoir. Si vous saviez le nombre de fois, les lundis, les vendredis, à toutes mes réunions, je demande c'est quand je vais avoir ma cour grillagée. C'est quand je vais avoir ma cour grillagée. Et j'ai jamais la réponse. Encore.
Alors là, ça, la cour grillagée, ça règle un problème, c'est que vous avez une disponibilité, vous n'êtes pas obligé de faire une alternance, vous avez une plus grande marge de manœuvre pour, dans une journée, surtout avec le temps, qui, la noirceur qui arrive plus tôt, vous pourriez sortir tout le monde. Sauf qu'il reste le problème du personnel.
Ça, le problème du personnel, c'est certain. Mais au moins, en ayant la cour grillagée, même lors d'enjeux d'urgence ou d'urgence tout court, que ce soit drone, n'importe quoi, ça va même me donner l'espace, le temps pour récupérer la perte des sorties extérieures. Donc, je vais pouvoir récupérer le temps puis donner la cour extérieure à tous mes sous-groupes, à tous mes sous-secteurs que j'ai. C'est pour ça l'importance d'avoir cette cour-là.
Mais, là, on m'a
mais
dit,
non, au niveau du personnel, Madame la juge, là, j'ai aucun contrôle là, là-dessus. Si je pouvais en avoir 250 autres agents, je vais vous dire une affaire, j'aurais 250 autres agents parce que je pourrais donner tous les services que moi, je suis mandaté pour donner. Puis que j'ai donné pendant mes 20 premières années de service, on le donnait, on n'avait pas d'enjeu comme ça.
Parce que là, on m'a expliqué que ça prend 3 agents de façon... C'est nécessaire pour pouvoir faire en sorte de faire les sorties dans les cours extérieures. Ça prend 3 agents.
Exact, parce que c'est une clientèle, il faut comprendre, de prévenus. Et ça, nous, il y a des normes de sécurité au niveau des transports des personnes incarcérées avec le statut prévenu. Il y a un nombre d'agents, ça c'est dans les règlements, c'est dans les règles avec les agences de sécurité correctionnelle. On a un nombre d'agents, un nombre maximum de personnes de transport au niveau des personnes incarcérées et le nombre d'agents. Fait que ça, j'ai pas le choix, je dois respecter ça et oui, vous avez raison.
D'accord. Alors ça, vu que vous dites que maintenant les agents se font des longs week-ends plus fréquemment parce que vous avez un problème du vendredi au lundi, là, ça devient des fins de semaine de 4 jours.
C'est pas, je vais pas vous couper, mais c'est pas vraiment ça que j'ai dit.
Okay,
mais j'ai dit c'est pas... possiblement. Là.
OK. Non, mais vous dites que c'est souvent ça les problèmes. C'est la fin de semaine.
Ben,
puis de plus en plus,
oui, la fin de semaine.
Vendredi, lundi, de plus en plus. Ce qui semble démontrer que les gens veulent étirer leur week-end pour un plus grand week-end. Ça ressemble à ce que vous avez dit?
C'est une constatation que nous, on voit que c'est plus difficile, selon nos statistiques, à avoir le personnel les lundis, les vendredis et la fin de semaine. Oui, c'est plus difficile. Puis déjà, à la base, on manque de personnel. Et on en manque beaucoup de personnel.
Oui. Est-ce que la direction est ouverte au temps supplémentaire, à payer du temps supplémentaire?
Absolument, Madame la juge. La direction est prête à prendre tout le monde en temps supplémentaire. C'est que le problème en ce moment, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas c'est vraiment la personne. On n'a pas la personne. On n'a pas la personne pour venir travailler. C'est vraiment juste ça. C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de temps supplémentaire, c'est qu'on n'a pas la personne pour venir faire le travail.
OK. Mais est-ce que vous savez si on demande aux gens qui sont en congé ou qui sont pas sur leur heure de travail de rentrer en temps supplémentaire pour compenser? Est-ce que ça se fait?
C'est exactement ce qui se fait, Madame la juge, depuis des années. Ils ont des livres de temps supplémentaires. On les appelle, on les sollicite à tous les jours. J'ai des sergents qui sont sur le téléphone, ils font que ça, être sur le téléphone et appeler des gens et leur dire « Est-ce que tu peux venir nous dépanner? Est-ce que tu peux venir nous dépanner? » Puis ça, c'est sans compter le livre des temps supplémentaires. Mais les gens sont extrêmement étonnés qu'on a beaucoup de réquisitions obligatoires. Ça nous cause, ça fait que les gens sont extrêmement fatigués. On s'en cachera pas.
OK. Et donc, attendez, est-ce que je peux savoir pourquoi les tests, vous ne les faites pas le soir, puisque les détenus ont, pour ainsi dire, la moitié de possibilités de sortie depuis que la cour est en travaux?
J'ai entre partie tantôt répondu à la question en fonction de ça que c'est des contrats gouvernementaux, possiblement. Faudrait parler à la personne de l'ASCI plus tard. Elle va pouvoir vous répondre au niveau du contrat. Moi, je l'ai pas. Ça, c'est des contrats que moi, tant qu'à moi, j'aimerais bien ça qu'ils fassent la nuit, les tests, parce que plus vite que je vais avoir quelque chose, plus vite je vais pouvoir ouvrir mes cours. Et comme je vous dis, Madame la juge, moi, j'ai été des années à avoir les cours ouvertes le soir. Comme je vous dis, c'est en ce moment, la problématique, c'est c'est vraiment les livraisons et le danger de ce qui est livré
là,
au niveau de ça. C'est vraiment le danger.
OK. Fait que ça veut dire que c'est seulement la cour du secteur A qui peut être utilisée avec grillage, que ce soit jour ou nuit, il n'y a pas de problème. On peut l'utiliser.
La petite cour grillagée, elle pourrait être utilisée, elle, mais là, je ne connais pas les règles de sécurité en fonction de cela, puis en fonction de... Mais on s'entend, comme je dis, c'est un 10 pieds par 10 pieds, là.
Oui. Oui, mais si
c'est
la
tout petit, on...
Oui, je comprends. Mais comprenez-moi aussi là, que là, il y a un bris au niveau des règlements et de la loi, là. Alors,
oui, oui, absolument. Oui. Mais moi, je pense que lorsque la cour extérieure baissée, grillagée, va être effective, je pense que l'administration va faire toutes les démarches en possible pour pouvoir essayer d'extensionner nos heures d'ouverture.
Oui, parce que là, il n'y a plus de raison. Je veux dire, la sécurité des drones puis la possibilité qu'un drone laisse tomber quelque chose que je n'avais pas tout à fait compris. Je trouvais votre explication très claire, là, le fait qu'ils volent plus haut et qu'ils laissent des paquets très lourds tomber, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec votre témoignage. Mais on s'entend qu'avec une cour grillagée, ce problème-là n'existe plus. Là. C'est fait pour justement pour ça. Il n'y a plus rien qui peut rentrer dans cette cour-là.
Il y a de quoi qui peut tomber sur le toit, oui, mais il n'y a pas de quoi qui pourrait atteindre et mettre en danger la vie de la sécurité de nos personnes incarcérées ou de mon personnel.
C'est ça.
Vous avez raison.
Donc, que ce soit le jour ou la nuit, ça ne devient plus un enjeu. Alors que dans une cour ouverte, pas de grillage, c'est majeur. Parce que là, comme vous dites, le soir, on voit
c'est
pas très bien, on détecte moins bien. Déjà des choses qu'on ne voit plus vraiment parce qu'elles sont tellement hautes et on n'entend pas le bruit que c'est rendu un problème.
Exactement, la juge.
D'accord. Monsieur Pérez?
C'est tellement dangereux ce qui tombe du ciel. Là. Le poids que ça a, on ne peut même pas imaginer comment est-ce qu'on... Déjà, on se trouve chanceux qu'il n'y ait pas arrivé un incident envers nos personnes incarcérées, puis ou notre personnel. Vraiment, là.
Alors, je vais demander à Monsieur Pérez s'il y a des questions. Le fait que j'en ai posé, moi, peut-être ça a éclairé certaines choses. Est-ce que vous pouvez rester un 10 minutes de plus pour... comme ça, je pourrais vous libérer?
J'ai tout mon temps, madame la juge.
Est-ce que ça vous va pour vous?
Oui, tout à fait.
Alors, monsieur Pérez, oui. Je vais vous donner 10 minutes pour poser des questions.
Merci. Bonjour, monsieur Joubert.
Bonjour, monsieur.
Ah, peut-être. Est-ce que vous l'entendez, monsieur Pérez?
Est-ce que vous m'entendez, monsieur Joubert?
Là, oui. Il faudrait qu'il parle fort, juste un petit peu plus fort.
Il est debout, là, ça va mieux. Oui.
OK. Combien de détenus sont dans le B8 actuellement? Est-ce que vous savez?
J'ai un maximum de 44 personnes qui peut occuper le secteur B8.
Détenus versus prévenus.
J'ai pas le nombre de la division parce que lorsqu'un secteur est déterminé comme étant un secteur soit de prévenus ou de personnes avec, on appelle ça détenus continus, on n'a pas à faire le calcul ou la division entre les deux. C'est juste qu'à la base, ce secteur-là, c'est un secteur de prévenus. Mais que malheureusement, à cause des contraintes de la COVID, l'administration a décidé de faire les deux statuts ensemble, pour l'instant.
OK. Ça, c'est fort possible qu'il y a plus que 10 détenus vers ce prévenu en ce moment. Qui est le cas?
Absolument.
De connaissance.
Absolument.
OK.
Absolument. Il pourrait en avoir 42 détenus, puis 2 prévenus, puis oui.
OK. Parfait. Puis, c'est quoi la procédure pour les gardiens quand les cours extérieurs se font? Est-ce qu'ils notent le nom de la de détenu, la cellule, dans une note chronologique commune?
Là, je pense qu'on va dans des enjeux de sécurité, là, madame la juge, là, au niveau de ce qui est...
J'ai pas trop écouté la question, puis je regardais votre visage, je pensais que vous entendiez pas bien. Là.
OK,
que
laisse-moi répondre.
Non, je...
Est-ce que la procédure que découvre accélérant par les gardiens, est-ce qu'ils notent les noms et les numéros de cellule de la personne pour savoir s'ils sortent ou pas?
Ça peut faire partie des alternatives dans certaines journées ou dans certaines situations, oui. Dans d'autres, non. Ça peut être aléatoire, mais ça, c'est tout simplement... des enjeux de sécurité, tout dépendant de plusieurs facteurs d'enjeux de sécurité. Mais je ne veux pas aller de pourquoi on le ferait, pourquoi on ne le ferait pas.
Est-ce que, disons...
Monsieur Perret, juste un instant. Monsieur, je veux dire, la question est la suivante. Puisque vous avez une obligation de faire sortir les gens une heure par jour, c'est une obligation.
Oui.
Je vous pose la question, là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un registre comme on a vu par M. Perez, qui a un registre pour les sorties pour aller à la Cour de justice?
Comparution.
Là, les comparutions. Il y a un registre qui existe.
C'est parce que, ouais, le registre, malheureusement, il n'est pas fait individuellement, il est fait globalement pour le secteur, okay. Tout simplement. Il n'est pas fait individuellement comme peut-être pour les comparutions, où est-ce que c'est vraiment telle personne incarcérée, il est parti à telle heure, puis il est arrivé à telle heure, de retour à telle heure. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, là, je vous entendais tantôt. Mais pour le reste, malheureusement, en ce moment, nos mesures sont vraiment générales, sont globales, sont pour tout le secteur Bravo 8, pour tous mes autres sous-secteurs aussi.
OK. Parce que comme ça, comme M. Perez tout à l'heure disait, que quand la cour est ouverte, souvent, c'est pas comme dit de façon évidente là, que la cour est ouverte. C'est arrivé que les personnes incarcérées se sont rendues compte trop tard que la cour, c'était là. Ça venait de se faire. Est-ce que vous êtes au courant?
On a des calendriers de cours extérieurs. On a des ordres qu'on mélange pour éviter les livraisons. On a des règles, on a des manières de travailler. Fait que ça, c'est non chronologique nécessairement. Fait que c'est nos méthodes de sécurité aussi. Mais il n'y a pas d'inscription individuelle et non, on donne tout le temps un nombre de temps. Lorsqu'on informe les personnes incarcérées, c'est pas les agents, parce que ça, c'est les agents qui font ça. Ils vont dire la cour extérieure est là. On lance le message, on laisse un nombre de temps déterminé pour permettre aux personnes incarcérées de finir de s'habiller, soit de finir de finir leur, je sais pas, leur café, parce qu'ils n'ont pas le droit de descendre rien dans la cour, et de finir de se mettre adéquatement pour être capable d'aller faire leur cours extérieur.
Okay,
mais ils ont un nombre de temps après.
Alors, je sais qu'une des remarques de M. Perez, c'est que cette annonce-là par l'agent, c'est pas toujours fait de façon évidente. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pourriez améliorer pour qu'au moins les personnes détenues sachent que la cour, là, ils ont accès. Là. C'est ouvert à cette heure-là, maintenant, puis ça peut être des fois seulement 30 minutes, fait qu'ils ont intérêt à se dépêcher.
Absolument, oui, c'est moi. Il y a tout le temps moyen de s'améliorer, puis oui, je suis content de l'entendre, parce que c'est ce genre, ça fait partie de mon travail, de pouvoir faire des rétroactions à mes sergents, à mes chefs d'unité, de pouvoir améliorer le service, puis de pouvoir, justement, la communication est la clé de tout. Fait que moi, si ça peut permettre que les personnes incarcérées comprennent mieux que là, c'est ton temps de te préparer, et que, absolument, on peut le faire, on va améliorer nos procédures, absolument, pas trop.
Bien, je suis très contente de vous entendre, me répondre ça, parce que je pense que ça va enlever aussi beaucoup de frustration, parce que M. Perez, peut-être qu'il y a des fois qu'il a dit que la cour était fermée parce qu'il n'a pas entendu, alors que là, on enlève cet irritant-là, puis même si c'est ouvert 30 minutes, ce qui ne devrait pas être le cas, mais qu'on me dit que c'est temporaire tant que l'autre cour n'est pas ouverte, au moins, ils vont le savoir qu'ils n'ont l'accès, là.
Juste pour pas nécessairement corriger, mais les notes des cours extérieurs, c'est toute l'unité B8 qui travaille ensemble depuis ou minimum, que si je la manque, étais-tu donné la cour? Ça, c'est tout signé par tout le groupe, so il n'y a pas d'ambiguïté ici. Je peux même faire amener les personnes, vous pouvez les demander, c'est qui gère.
Je comprends, M. Perez, mais vous m'avez dit tout à l'heure, moi, des fois, la cour, je ne suis même pas au courant, je ne l'ai pas entendu.
Oui, par exemple, le 16 et le 17 octobre, vous voyez que la cour a été, les portes ont été ouvertes à 8h30, mm-hmm. Et ça a été, ben avant cette question, avant que je te mette ce point, quand le gardien, il call cour extérieur, il donne à peu près combien de minutes pour te mettre essoulé pour sortir et les portes ferment. On a à peu près 3-4 minutes. Est-ce que vous avez d'autres informations? Combien de temps ça ferme les portes après sa corps?
Techniquement, il n'y a pas un nombre de minutes minimum. C'est un temps raisonnable qui est donné. On le voit quand quelqu'un, mettons, j'ai été agent assez longtemps aussi, j'ai fait du plancher, j'en ai écrit des cours extérieurs, et c'est tout simplement lorsqu'on faisait l'appel au temps, on faisait l'appel, puis il y a quelqu'un, mettons, qui était, on va le dire, dans une position, mettons, aux toilettes, on s'entend qu'il est aux toilettes dans sa cellule, je vais aller si loin que ça, bien, il va ouvrir la porte, puis il va nous lâcher un petit wack avec sa main, puis il va nous dire, OK, donnez-moi 2 minutes, on va le donner 2 minutes, mais au moins, on le sait qu'il y a quelqu'un qui est en mauvaise position présentement, ou en position importante, ou quelqu'un dit, garde, mon linge est dans la sécheuse, je peux aller chercher mon manteau, Mais il y a une communication à avoir, de dire, regarde, on peut-tu avoir 2 minutes, on peut-tu avoir 3, mais déjà en 3-4 minutes, madame la juge, là, je suis capable d'habiller un enfant avec un gros kit d'hiver. Fait que, je pense que des adultes, on est capable de s'habiller, en 3-4 minutes, on peut s'habiller assez lentement même, je pense.
Sauf 15 minutes après que vous callez, disons 15 minutes après, est-ce que quelqu'un peut venir et demander de sortir dehors?
Malheureusement, non. On ne peut pas refaire, comme j'ai dit, des transports de sécurité à cause, nous, comme dans nos régimes de vie, même pendant la cour extérieure, il y a d'autres tâches, que ce soit des distributions de mémos, de mandats postes, de peu importe de quoi, nous, on a plusieurs autres tâches connexes qui continuent, soit même pendant la distribution des médicaments, pendant peu importe les tâches qui sont faites à la détention, pour même pas juste le secteur B8, là, M. Pérez, là, c'est la même chose. Ce que je dis, c'est pour tout le monde inclusivement. Malheureusement, il y a d'autres tâches. Mes agents sont déjà partis sur d'autres tâches. Ça n'arrête pas parce que là, présentement, lorsqu'ils sont dans la cour extérieure, c'est du visionnement par caméra fait par un autre groupe d'agents de sécurité qui surveille les cours extérieurs.
Qui est comme le cas? Parce que, disons, après 5-10 minutes, c'est pas possible parce que sont très occupés les gardiens. OK.
Mais de toute façon, M. Pérez, ils n'ont pas intérêt à attendre trop longtemps, puis ça coûte du temps de cours.
C'est ça. C'est trop de temps. Alors, qui m'a amené le 16 et le 17 octobre. Ça appelle la cour extérieure à 8h30 pile, dès que la porte est ouverte. Boum, ça a ouvert. Cour extérieure, les yeux sont même pas ouverts. Il y a à peine 3-4 personnes qui sortent. Puis c'est ça pour au moins le 16 et le 17, le 11.
Monsieur Pérez,
le 4.
Je comprends ce que vous dites, mais là, je pense que Monsieur Joubert nous a expliqué que la situation actuelle, elle est très problématique parce qu'il y a une seule cour. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'ils maximisent ce qu'ils ont, puis peut-être que le fait que cette colonie n'ont pas le choix, là, parce qu'il faut absolument qu'ils fassent une alternance dans leurs 7 groupes. Alors, c'est sûr que dans un monde idéal, oui, c'est vrai que c'est l'autonomie, c'est le bonheur, mais là, dans la circonstance actuelle, déjà qu'il y a eu 1 heure de cours, je trouve ça fantastique, là, c'est rare qu'on voit 1 heure de cours.
C'est plus facile, disons, qu'ils la font de même que de ne pas la faire du tout,
exactement,
on va dire.
Exactement. Voilà.
OK. Avec ça dit, est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes chargé de tous les employés, disons, Dave Morneau, Kevin, M. Jean-Baptiste, Geneviève Legris, toutes les autres. Vous connaissez ces membres que j'ai nommés?
Les noms que vous m'avez nommés, pour moi, c'est tous des agents de service correctionnel qui travaillent régulièrement dans le secteur Bravo, qui sont sous la charge des sergents. Moi, dans le fond, je suis en charge des sergents. Les sergents sont en charge des agents de service correctionnel. Mais oui, c'est des agents qui travaillent quand même dans mon secteur, que si j'ai des demandes, et ils vont devoir les mettre en application. Oui, j'y connais.
Est-ce que c'est vous qui gère les employés? Vous êtes au courant qui rentre, qui sort?
Je ne connais pas les horaires des agents. Je vous dis, moi, je suis en charge de mes sergents. C'est mes sergents qui sont en charge de savoir les horaires, qui travaillent, qui ne travaillent pas au niveau du personnel, agent service correctionnel.
OK. Le 14 septembre, avez-vous reçu une ordonnance de la Cour?
Là, vous voulez savoir s'il y a eu mon jugement?
Oui.
Est-ce que vous avez eu mon jugement, M.
Joubert? Est-ce que vous avez reçu un jugement de...
Ben non, j'ai pas reçu le document. J'ai reçu juste les documents que les procureurs m'ont fournis.
Parce que, M. Joubert, le 14 septembre, j'ai rendu une ordonnance qu'il fallait assurer l'heure à l'extérieur et avoir les 3 agents pour ça. Et la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'est que moi, j'ai dit au procureur que puisque c'était une ordonnance de la Cour, ça s'appelle un outrage quand on ne le respecte pas. Alors, c'est pour ça que là, vous expliquez des choses, je suis contente de l'apprendre, mais ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'un jugement de la Cour ne vous a pas été envoyé.
Ça ne m'a pas été envoyé directement à mon niveau à moi. Est-ce que ça m'a été envoyé à un niveau supérieur puis ça n'a pas descendu à mon niveau à moi, que je dois donner absolument une cour extérieure à toutes mes... peu importe la manière que je la donne, puis c'est jamais descendu à mon niveau.
Donc,
que il va falloir que ça soit reparlé parce que, voyez-vous, s'il n'y avait pas eu toute cette audition-là, probablement que la possibilité qu'il y ait un outrage au tribunal aurait été assez forte. Ça aurait été quand même dommage que vous n'ayez pas reçu le jugement et que vous receviez une convocation à la cour pour un outrage.
J'en suis désolé. À mon niveau, à moi, c'est jamais descendu. Moi, comme je vous dis, c'est la procédure que mes supérieurs, que la haute direction, que eux, ils prennent les décisions, parce que moi, je m'occupe des opérations. Je suis en charge des opérations planchées. Donc, ça, c'est mon carré de sable à moi. Moi, je reçois l'information qui vient d'en haut, les consignes, les règlements, les notes, et j'hésite. Et mon devoir, c'est de les mettre en application pour faire profiter ma clientèle puis m'assurer que tout leur est donné. Fait, c'est pour ça que je ne suis pas gêné de vous dire qu'en ce moment, mes supérieurs sont au courant de la méthode que je peux faire pour donner le plus de cours extérieurs possible. Parce que je n'ai pas d'autre alternative à mon niveau à moi qui m'a été autorisé de faire autrement que qu'est-ce que je suis en train de faire qui va donner le plus possible à ma clientèle.
Donc, ça veut dire que vos supérieurs vous ont jamais fait suivre mon jugement dans lequel j'ordonnais que la cour extérieure soit accessible une heure pour les personnes.
Moi, je n'ai pas eu d'informations dans ce sens qui me disait soit votre jugement, soit qui me disait de modifier mes sorties de cours extérieures et de tout faire pour donner les cours. Je n'ai pas eu ça. Moi, à mon niveau, ça ne s'est pas descendu à moi.
Bon. Alors,
c'est pour ça qu'en date d'aujourd'hui, si je serais au travail, Madame la juge, là, je continuerai à donner exactement la même procédure que je vous ai expliqué au départ de replacer mes 7 sous-secteurs dans mes 6 plages horaires. C'est ça
en ce moment que je peux faire. Là, je vous dis tout de suite, M. Joubert, ce jugement-là du 14 septembre est en vigueur, il est applicable. Alors, je trouve ça. Je vais demander au PGQ de vous le faire suivre. L'avez-vous, ce jugement-là, vous?
Oui,
je
l'ai dans.
Alors, les conclusions sont au procès-verbal. C'était supposé être diffusé. Alors, je ne sais pas pourquoi vous ne l'avez pas eu. Je vais demander au PGQ, au procureur du PGQ, de le faire suivre à vous et à vos supérieurs pour qu'il y ait un suivi là-dessus. Parce que je ne comprends pas que cette ordonnance-là n'ait pas été suivie, premièrement, et diffusée. Peut-être diffusée et suivie plutôt dans l'ordre. Je trouve ça un peu inquiétant. Mais en tout cas, je suis contente de le savoir parce que je vous écoute et j'ai l'impression que vous êtes une personne d'action et que vous faites tout ce qui est en votre possible pour assurer le bien-être des personnes détenues. Oui, M. Perret, avez-vous d'autres questions?
C'est mon mandat, Madame la juge, sinon je ne ferais pas ça. J'ai été en charge du département de l'infirmerie pendant des années. Puis pour moi, c'est de m'occuper de la santé des gens que j'ai à garder. Et en même temps, de m'occuper de mes agents et de mes travailleurs qui travaillent. Ça, c'est simplement mon devoir, moi.
Bon, ben écoutez, je suis très heureuse d'entendre ça. Là, M. Perret, il est moins 10. Il faut que les gens aillent manger, puis on revient à quelle heure vous avez demandé à l'individu d'être là?
Quel individu, le témoin pour.
Le témoin qui va être disponible à partir de 2 ans.
Parfait.
Alors, j'ai une couple de questions pour lui.
Mais ciblez la question, parce que oui. Je comprends que vous avez des informations, mais là, il faut aller vraiment.
OK. Avez-vous, cette mois-ci, avez-vous des photos des drones que la caméra a prises, au moins 1, 2, 3, 4, on va comprendre le size pour Madame la juge, qu'elle comprend les sizes peut-être pour montrer un gros de même, un petit, une photo. Avez-vous des photos à montrer à la juge?
Ben, c'est des enjeux de sécurité, j'ai pas de photos à montrer. Même s'il existe des photos, ça serait nos gestionnaires au renseignement sécuritaire qui pourraient fournir ça. Il existe beaucoup d'informations, mais ça fait pas partie de mon mandat, moi, des directeurs de services du secteur Bravo, de gérer les drones, ou même la sorte de drone, ou le type de drone, ou le type de livraison.
Non, juste un.
C'est pas mon mandat.
Juste un.
Non, mais je n'ai pas ça, c'est seulement les gestionnaires au renseignement sécuritaire qui pourraient faire ça, parce que nous, on n'a même pas j'ai pas de cap, à l'intérieur des murs, on prend pas de photos, là.
Est-ce que vous pouvez en avoir un du responsable, juste pour toi, que tu analyses pour rectifier le problème?
Monsieur Perret, il vient de vous dire que ça ne le concerne pas du tout, c'est le renseignement sécuritaire, la gestionnaire.
OK, ça, c'est pas vous qui s'occupe de problèmes de drone?
Non.
OK.
C'est tout, malheureusement, Monsieur Perret.
OK.
Il est seulement avisé.
Moi, Moi, je m'occupe de vous, M. Perret. Je m'occupe que vous recevez tous les services, que toutes les affaires sont faites. Je vais m'occuper de vous dans le secteur des 8, ça va me faire plaisir.
Est-ce que c'était votre idée de me transférer à Sorel?
Absolument pas, M. Perret, j'étais même pas au courant.
Ah, tu n'étais pas au courant. C'est qui a pris la décision
de me transférer? Non, M. Perret, ça c'est...
Ok, ça c'est après. Ok, est-ce que j'ai causé des problèmes dans le secteur B pour une raison ou une autre?
Monsieur Perret, on n'est pas là pour ça. On est là pour votre liberté résiduelle. Les aires communes, la cour extérieure.
Ouais.
Je vous dis tout de suite, les aires communes, c'est pas le point qui me préoccupe. Ça me préoccupe. Mais dans les circonstances actuelles, ce qui me préoccupe prioritairement, c'est la cour extérieure.
OK. Est-ce que monsieur a ma cédule, comme je vous ai donné? Monsieur,
je ne sais pas, parce que ça a été donné, je pense, au procureur ce matin.
Mais vous avez-tu des listes de deadlock alors qu'on est confiné?
Moi, je n'ai pas ça sur moi. Non, je n'ai pas de liste. Parce que ce n'est pas à mon niveau. C'est au niveau des opérations planchées. Donc, les heures confinées, les heures fermées, c'est les agents de service correctionnel qui ont ça.
Donc, vous
et les sergents. Ce n'est pas à mon niveau.
Vous ne pourriez pas regarder, hop, un tel détenu, hop, il a fait telle et telle heure de il n'y a pas de liste,
non.
Pas de... Okay.
Je vous l'ai dit, on travaille dans une vision globale. C'est tout le secteur, c'est tout le monde, c'est pas un, c'est pas l'autre, c'est le secteur au complet. Lorsque le secteur sort, c'est tout le monde qui sort. Si une personne incarcérée décide de rester, sa porte est débarrée, mais il décide de rester dans sa cellule, c'est son choix. Mais ça inclut sa sortie, ça veut dire qu'il peut sortir.
OK. Le 13 octobre, dans votre liste chronologique, ça dit que... la cour n'a pas été donnée. Après, ça dit que ça a été donné.
Là, vous êtes dans quel document? Dans celui qui est caviardé ou dans celui qui est manuscrit?
Celui-là.
Ça, c'est...
Le chronologique du 13 septembre.
OK, ça, c'est PGQ. Je crois que c'est le 1, ça?
Oui.
Ça dit que toutes les cours extérieures sont annulées car il y a des essais de machines pour drones. OK. Après ça... Il y a un autre 13 qui a été donné. Par contre, moi, dans ma liste, on n'a pas eu de cours d'extérieur.
Oui, mais ça, ça...
Mais moi, ce que j'ai la même note. Et si la note était remplie par un agent de service correctionnel qui a pris la peine d'écrire qu'il y a eu des tests de fait, comme c'est écrit, de 8h20 à 13h, et que la cour du B8 a été donnée à vers ou à 15h15, et que M. Perret y va... Je prends pour acquis que mon agent dit la vérité, puis s'il a pris la peine de l'écrire, on sait qu'il n'écrive pas tout, là, il a pris la peine de l'écrire, je prends en considération que ce qui est écrit.
Est-ce que vous trouvez que 15 heures et plus dans une cellule par jour, c'est trop?
Monsieur Perez?
Non. Ça, c'est de la perception.
OK.
Ça, c'est marqué que c'est ça qui est préférable, que vous soyez 10 heures à l'extérieur de la cellule.
Ça, je ne sais pas si mes types de questions, je n'ai pas de telle et telle expérience.
Vous avez posé une très bonne question.
Ouais.
Sauf que je pense que le témoin a déjà précisé jusqu'où lui est capable de nous répondre.
OK.
Puis, vous voyez, même mon jugement du 14, il ne l'a pas eu.
Alors,
c'est ça. Alors, ça, c'est l'article, c'est prévu dans la réglementation, l'article 10. Ça, c'est pour ça que ces questions-là, quand vous avez demandé comment ça se gérait, je pense qu'on a eu les réponses de M. Joubert à l'effet que c'est global, c'est pas par individu, contrairement aux comparutions judiciaires, où là, c'est par individu.
Ça va être au courant que à chaque fois que je sors, l'agent, il note, il fait un highlight sur la journée que je sors pour la cour, etc. Êtes-vous au courant que lui, il coche? Monsieur Perret, c'est quoi votre cellule? Book, oh, 300, il coche. Depuis que je suis là, ça coche. Est-ce que vous êtes au courant que ça coche chaque individu qui sort dehors?
Dehors ou pour comparution?
Pour dehors. Sortir dehors.
Dans la cour extérieure?
Coche. Il y a le bonhomme à l'avant,
on est devant, on fait une ligne. C'est quoi votre nom? Le supervise, cellule 310, il coche, je m'en vais, je descends en bas.
Dans la cour?
Oui. Soyez-vous au courant que quelqu'un me demande mon nom et ma cellule quand je descends en bas?
Ça fait partie des procédures, comme je l'ai dit, aléatoires, ou même ça pourrait être spécifique, et ça fait partie du devoir des agents de le faire, et c'est correct qu'ils le font, parce qu'on veut savoir qui est dans l'écho extérieur, mais est-ce que c'est fait nécessairement à tous les jours? La réponse n'est pas nécessairement oui, c'est non, les agents décident. Puis en même temps, il faut comprendre qu'il y a un roulement de personnel incroyable. Donc, c'est pas tout le temps les agents réguliers qui travaillent, donc ces gens-là veulent savoir qui est dehors.
OK. OK, ça, je ne sais pas quoi d'autre. J'aimerais poser plus de questions, mais je ne sais pas si ça va être ma liste, c'est la liste qu'on travaille tout dessus, est exacte, la liste?
Bien là, de toute façon, ça, c'est des arguments que vous me faites plus tard, mais pour l'instant, je pense que M. Joubert a été très généreux de son temps.
Oui, merci, M. Joubert.
Et c'est très rafraîchissant d'entendre quelqu'un qui, à moins que vous soyez un excellent acteur, mais je sens que vous prenez très à cœur ce que vous faites et je pense que les personnes détenues sont chanceuses de vous avoir.
C'est plaisir d'entendre ça.
It's fulfilling. I'm happy with myself that you know, if everybody has to follow the law, everybody has to follow. Not that my intentions are ever to break the law and situations occur. But it is desirable to follow the law and that everyone has the benefits and the fruits of the law that are very fruitful.
But you understand that Mr. Joubert, if he's aware of a question, will look into it if it goes to his responsibility. Okay. That's why he took note that when they say the exterior court is now open, he will take the steps so it will be heard by everybody and everybody will be aware that they can go outside. The 3 to 4 minutes will stay probably the same because if you take too much time to wait for everybody, then the exterior court is shorter.
That's it. Yeah. So there's not a lot of time. And so basically at 8:30 in the morning to call the court exterior, it's quite a bit too early, I would say. Maybe 15 minutes, the time you could wake up and go to the bathroom for a sec. Maybe grab a coffee,
yeah,
I would
but
say.
Mr. Perez, in the situation right now,
Anything is good.
When they will have the two exterior court, I'm sure they will take the proper measure to have it
scheduled properly.
But
for now, there's a serious problem, but we're trying everything, and thank you very much for your time, and I hope that there's no animosity between me when I go back.
I will be very surprised. Merci beaucoup, Monsieur Joubert. Bon, il est 1 heure. On va prendre l'heure de lunch jusqu'à 2 heures. So we'll have the lunch, and at 2 o'clock we'll have another witness. And est-ce que vous savez combien de temps on peut prévoir pour ce témoin-là? C'est plus informatif à savoir combien de temps. Là, c'est
15-20 minutes. Là. C'est okay. À moins que possiblement vous allez avoir des questions là pour.
Ça me ressemble pas du tout.
Pour le témoin. Je veux pas que vous mettez vos attentions.
Mais c'est parce que voyez-vous, je suis contente de poser des questions parce que ce que M. Joubert a dit, j'avais aucune idée de ça. Et je pense que même vous, on a compris que B, c'était tout, puis que quand ça ouvre, c'est pour tout le monde, puis qu'on n'a pas nécessairement le détail de chaque L, mais ça, je pense que c'est important aussi, parce que ce qui a l'air d'être une information erronée, et pas une information erronée, c'est juste que c'est global. Alors ça, je pense que c'est important
pour
de comprendre.
Les 4 journées sur les mémos, par contre, pour les notes chronologiques, c'est pris ça.
Non, ça, c'est clairement écrit, là. Mais c'est parce que tout à l'heure, c'était contradictoire. Alors que ça n'est pas vraiment contradictoire. Fait que je suis contente de voir qu'on peut se fier sur. Alors, parfait. Alors, bon appétit à tous.
Est-ce que je pourrais laisser.
Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème.
Je vais juste prendre ça.
C'est beau.
OK.
Vous avez.
Bon appétit.
Merci.